Pourquoi est-ce désormais si difficile de dire nous à une époque où la conscience planétaire est censée être particulièrement aiguisée? Les hommes n'ont jamais été aussi divisés. On en parle en compagnie de l'historien Patrick Boucheron. Bonjour.
Bonjour.
Patrick Boucheron, vous êtes professeur au Collège de France sur la chaire Histoire des pouvoirs en Europe occidentale. Vous êtes spécialiste du Moyen-Âge et de la Renaissance, particulièrement en Italie, et président du conseil scientifique de l'École française de Rome. Vous assumez un commissariat créatif d'un festival dont le titre est Nous autres. Il aura lieu du 14 au 16 juin au Grand T à Nantes. Pourquoi nous autres? Expliquez-nous.
Parce que nous autres, ça dit justement la difficulté de dire nous, sur laquelle vous introduisiez justement. Parce que quand on dit nous, on ne sait pas très bien jusqu'où, vers les autres, cela peut inclure notre propos. Un petit peu de grammaire à 8h moins le quart, c'est peut-être dur, mais enfin, le « nous », c'est pas forcément le pluriel du « je ». Parce que si je dis « nous », est-ce que c'est nous deux qui parlons? Est-ce que ce sont nos amis derrière la vitre? Ou est-ce que ce sont vous? C'est aussi vous qui écoutez? On sait jamais. Et avec la manière de construire des collectifs, que ça soit du point de vue communautaire, national ou international, c'est toujours comme ça. Et au fond, ça fait tout à fait. C'est la troisième édition de ce festival Nous autres. Il y a une biennale d'histoire tous les deux ans à Nantes. Et le titre même le dit. Parce que parfois, quand on dit nous autres, nous autres, on pense que c'est un nous un peu appuyé. Hein. Voilà, ça veut dire nous et pas les autres. Mais on peut l'entendre différemment. On peut effectivement entendre dans nous autres, nous qui sommes les autres des autres. Et c'est à jouer en fait avec l'identité et l'altérité que sont convoqués justement les arts, la création, le théâtre, l'histoire, la littérature, tout ce qui va se donner joyeusement rendez-vous à Nantes dans quelques jours.
Vous parlez, Patrick Boucheron, d'un dilemme mortifère entre le cosmopolitisme et l'enracinement. Expliquez-nous, là aussi, ça signifie qu'entre ces deux termes, vous refusez de choisir.
Oui, et pas seulement moi, et pas seulement les historiennes et les historiens et les créateurs qui se reconnaissent dans ce projet. L'idée, au fond, c'est qu'on a voulu opposer une manière un peu têtue et obstinée de rêver ou de chanter l'enracinement et une façon trop déliée et désinvolte de s'en désintéresser par l'histoire monde. Mais j'ai tenté de montrer par bien des aspects, et pas seulement moi, qu'au fond on n'avait pas à choisir. Oui, vous avez raison, on n'avait pas à choisir. Être de quelque part, c'est chanter même son émotion de l'appartenance, ce n'est pas tenir l'autre pour rien. Et c'est pour cela que au fond, ce festival, il est aussi mis, je dirais, sous non pas l'autorité, mais l'inspiration de grands penseurs comme Pessoa ou Édouard Glissant. Et ce sont des comédiennes et des comédiens qui vont lire Pessoa et Édouard Glissant dans un théâtre, le Grand T, dont la directrice Catherine Blondeau dit qu'elle doit défendre une éthique de la relation, comme le disait Glissant. C'est-à-dire, au fond, une manière, oui, d'être ensemble de construire des rencontres étonnantes. Et c'est de cela dont il s'agit.
Bon, mais alors, ces gens-là sont des gens évidemment respectables, qu'il s'agisse de Pessoa, d'Édouard Glissant, mais ils ne sont pas historiens, n'est-ce pas un problème pour vous? Non pas que vous soyez sectaire, évidemment, Patrick Boucheron, mais justement le fait que vous deviez faire appel à des gens qui sont poète et pas historien.
Ah non, c'est pas du tout un problème. D'ailleurs, je suis au courant que tout le monde n'est pas historien, et tant mieux. L'idée, c'est que justement, la rencontre, la relation, elle est entre des historiennes et des historiens de métier et qui travaillent à Nantes. Il faut dire que c'est pas simplement comme ça, un projet qu'on aurait imaginé, Catherine et moi. Non, c'est ancré dans le territoire, justement. On travaille avec le musée, les deux musées d'ailleurs, le musée d'Aubray, le musée d'art de Nantes. On travaille avec le château, on travaille avec l'université. Ça fait des semaines et des mois que mes collègues et amis de l'université, Annick Peters-Custeau, Yann Ligneureux et Philippe Josserand, travaillent avec les étudiants. Et ces étudiants, par exemple, ils ont fait des cartes un peu singulières qui, tenez, voilà, nous sommes dans le sujet, dessinent ce qu'il y a de mondialité dans la Nantes d'aujourd'hui. Ils vont faire voir ces cartes.
Par exemple.
Ah ben ça, je sais pas, je vais découvrir, Guillaume. Hein. Moi, je justement, c'est la surprise. Et il y a des ateliers de restitution et on va voir. Et on va voir ce que ça donne.
Si je vous posais la question sur Pessoa et Glissant, c'est parce que l'une des phrases probablement les plus citées, alors c'est toujours problématique, les phrases trop citées, une phrase de Marc Bloch, cette célèbre phrase, il est deux catégories de Français qui ne comprendront jamais l'histoire de France, ceux qui refusent de vibrer au souvenir du sacre de Reims, ceux qui lisent sans émotion le récit de la fête de la Fédération.
Vous revenez avec plaisir et obstination hein, sur cette phrase. Vous savez évidemment, je ne vous ferai pas l'injure de la contextualiser.
Oui, elle est dans une étrange défaite.
Et dans quel passage en particulier?
Alors là, par exemple, ça je ne m'en souviens plus.
Eh ben, dans un passage où Marc Bloch justement dénonce la bourgeoisie française qui a été incapable de comprendre que en juin 36 était non seulement à l'œuvre un mouvement social, mais le sens de la fête. Voilà. Et c'est justement ce passage que l'on récite comme ça, comme un mantra, ce passage, en réalité, c'est un passage sur précisément le rapport entre l'histoire savante, dont Marc Bloch, quand même, était le garant et le défenseur, et justement une émotion collective dont l'histoire savante ne doit pas se séparer. Et il expliquait précisément que un des drames de la France contemporaine, c'est aussi son origine dans cette incapacité à comprendre l'articulation entre le savoir et l'émotion. Et donc, c'est très intéressant parce que, d'une certaine manière, ce qui nous intéresse, ce qui nous anime parmi, toutes celles et ceux qui organisent ce festival à Nantes, c'est, au fond, de montrer que la grande culture et par exemple la joie, on va danser, on va manger, on va aller avec Samir Boumediene et Alexandra Cook au jardin, beau jardin botanique, on va faire de l'histoire de plein de manières et montrer au fond qu'on n'a pas d'une certaine manière à se laisser intimider par des grandes figures. Par exemple Pierre Michon. L'écrivain Pierre Michon, je vais avoir l'honneur de converser avec lui sur l'homme-monde. Alors on va dire, tiens, c'est bizarre, c'est pas l'auteur des Vies minuscules, mais si, justement, c'est l'auteur des Vies minuscules. Et dans les Vies minuscules, que l'on utilise effectivement journalistiquement pour dire des vies humbles, des vies modestes, c'est tout le contraire. C'est l'idée que justement, on n'a pas besoin de voyager, d'être un globe-trotteur pour se laisser pénétré et en fait fracassé par le monde.
Mais alors, dites-moi, si vous me demandiez de recontextualiser la phrase de Marc Bloch, est-ce que cela signifie que, d'après vous, justement, en oubliant son contexte, on lui fait dire quelque chose qu'elle n'a jamais voulu dire à cette phrase?
Oui, bien sûr, oui. Oui, bien sûr, on ne cesse de le répéter depuis que Nicolas Sarkozy l'a utilisé dans sa première campagne électorale en 2007. Mais voilà, apparemment, ça suffit pas. Donc il y a pas de problème. Je veux dire, la pédagogie, c'est l'art de la patience.
De la répétition aussi. Patrick Boucheron, dans votre dernier livre, La Trace et Laura, vous évoquez les vies posthume d'Ambroise de Milan. Autrement dit, ça n'est pas une biographie d'Ambroise de Milan, c'est une manière d'étudier en historien comment un personnage historique avec une dimension mystique, religieuse, vit après sa mort. Est-ce que finalement, la question justement qui est abordée par Marc Bloch, la question du nous autres, c'est une manière de voir comment la mémoire se construit, comment elle se métamorphose à l'échelle nationale d'abord?
Oui, ce que j'ai tenté de faire dans ce livre, c'est d'essayer de comprendre justement quelles ressources discursives on mobilisait pour dire effectivement notre courage de vivre ensemble. Donc les Milanais se disent ambrosiens, ils vont aller chercher un très vieux passé que, allant le chercher, ils le bricolent, évidemment. Un passé qui est quand même, pour une bonne part, séparé d'eux, et ils vont agir au nom d'Ambroise. Et donc, au fond, c'est un livre qui est un livre un peu spectral, qui cherche, oui, vous l'avez bien dit, les vies posthumes, qui cherche à comprendre comment on se construit avec un passé, ben justement une manière un peu digne d'être ensemble. Voilà. Donc c'est pas du tout pour le critiquer ou pour le déconstruire, c'est pour le comprendre. Voilà, c'est ça qu'il faut effectivement saisir, c'est que l'histoire est une position de compréhension sur la société. Et c'est pour ça qu'elle ne peut pas se désintéresser de celles et ceux qui, dans la création, et en particulier dans la création théâtrale, mais pas seulement poétique et littéraire, eh bien posent ce problème. Parce que à Nantes, on va pouvoir travailler avec des artistes comme Anaïs Allais, comme Mohamed El-Khatib, comme Marine Bachelot-Nguyen, qui dans leur théâtre ne cessent de poser ces questions. Voilà.
Mais alors, précisément, la manière dont la mémoire se crée, ce que vous étudiez pour Ambroise de Milan, dans le nous autres, si cette mémoire du nous autres, ce qui pose problème, c'est que tout ce qui vient de l'extérieur, tout ce qui vient de pays étrangers ou de communautés qui a priori ne seraient pas la communauté nationale, eh bien tout ceci a du mal à s'intégrer dans le discours national.
Vous pensez vraiment ?
Je vous pose la question.
Non, je crois que d'une certaine manière, il faut pas non plus, faut se dégager un peu de l'effet de loupe que la dramatisation journalistique ne cesse d'apposer sur ces sujets. En réalité, lorsqu'on voit les choses au fond de manière un peu sereine, bon bah il y a quand même une lutte de reconnaissance, c'est vrai, pour différentes histoires. Et j'aurai la chance effectivement d'en parler avec Felwine. C'est une lutte, bien sûr. L'histoire, comme les autres disciplines de compréhension, participe de cette lutte, mais cette lutte n'est pas acharnée. Regardez, par exemple, nous allons travailler à Nantes avec différentes institutions très savantes, et l'une qui est remarquable, qui est l'Institut d'études avancées, qui a été créé à Nantes par mon ami et collègue Alain Supiot, et qui c'est une idée toute simple, c'est une idée d'accueil de savants étrangers qui viennent non seulement profiter des opportunités de recherche que leur offre l'IEA, mais qui aussi nous permettent de comprendre comment on fait de l'histoire. Comment on fait de l'histoire en Inde, en Afrique, etc. Mmh. C'est avec eux qu'on va discuter. Et de ce point de vue-là, je peux vous assurer que dès lors que on se met dans cette situation de relation, ce n'est pas de l'irénisme que de dire que les choses sont sinon plus simples, du moins moins hargneuses. Voilà.
Moins hargneuses, mais toujours aussi problématiques. Par exemple, si l'on prend la question. Parce que vous évoquez Nantes, parce que le festival a lieu à Nantes de la traite négrière et de l'esclavage, cette mémoire-là, on sait à quel point elle est difficile à construire, à quel point elle ne va pas de soi.
Bien sûr, mais là encore, nous avons travaillé, c'est la troisième saison, avec le musée d'histoire de Nantes, qui, de ce point de vue-là, prend une position remarquablement courageuse parce que précisément il prend une position. Il y a une salle au musée de Nantes qui me frappe beaucoup et que j'admire en réalité par son courage. C'est effectivement une des salles sur la traite négrière où nous sommes, les visiteurs, nous sommes en position, nous sommes sommés au fond de nous mettre du côté du négrier. Alors c'est désagréable. Effectivement, on a une cargaison de bétail humain. On doit en assurer non seulement le transport, mais la rentabilité. Et ça dit quelque chose. Bah oui, on est à Nantes. Oui, on est à Nantes. Et cette ville-là, elle s'est construite comme ça. Et on peut avoir effectivement de la compassion. On peut évidemment chercher à changer de point de vue. C'est évident. Mais on doit aussi imaginer ce que ça fait de penser comme un négrier. Et ça, c'est une expérience de visite. Et au fond, l'histoire, comme le théâtre, élargit l'expérience.
Récemment, il y eut encore une polémique à ce sujet. Elle impliquait la romancière Christine Angot, laquelle s'est excusée. Mais la question que pose cette polémique, notamment, c'est la question de la comparaison des drames du passé. Comment faites-vous, vous, en tant qu'historien, pour appréhender des histoires dissemblables, mais des histoires traumatiques, Patrick Boucheron ?
Vous voulez parler d'Ambroise et de l'incendie de la synagogue de Kalinikoum, j'imagine. Quand je parle d'Ambroise de Milan, je parle de tout ce qu'on a fait au nom d'Ambroise de Milan, et je parle aussi des origines chrétiennes de l'antijudaïsme. Mais en quoi, au fond, écrire l'histoire, je vous provoque, évidemment, Guillaume, je vous montre que d'une certaine manière, je vous rappelle que je suis historien des périodes anciennes, et donc que j'ai assez tranquillement convoquer toutes les histoires. Et oui, les convoquer, ce n'est pas les comparer. Et les comparer, ce n'est pas raboter ce que les plus douloureuses peuvent avoir de vif.
Oui, mais d'un côté, on peut comparer différentes choses, sachant qu'elles peuvent revenir au présent. On va en parler d'ailleurs dans quelques instants, puisque à 7h, on a parlé par exemple de ce qui se passe à Gaza aujourd'hui avec des fouilles archéologiques, et dans La Trace et Laura, votre dernier livre, Patrick Boucheron, vous citez Maurice Alvax, un grand sociologue qui a écrit un livre sur la topographie légendaire des lieux saints, et on voit que ce livre, qui parle donc d'une antiquité très ancienne, est aujourd'hui pleinement dans l'actualité, je veux dire dans l'actualité aujourd'hui.
Les matins de France Culture.
Nous retrouvons notre invité Patrick Boucheron, professeur au Collège de France, notamment l'auteur de La Trace et Laura, vie posthume d'Ambroise de Milan. Et justement, nous évoquions, Patrick Boucheron, la difficulté qu'il y avait à ne pas choisir entre enracinement et cosmopolitisme. Mais si on suit ce que vient de dire Frédéric Saïs, ce qui a posé problème au sein de la France insoumise, c'est précisément deux lignes, si j'essayais de les résumer en un mot, ce serait enracinement ou cosmopolitisme. Est-ce que les historiens sont là pour nous expliquer que le monde est plus compliqué qu'il n'en a l'air ?
De toute façon, les historiens sont là pour compliquer nos généalogies, pour déstabiliser les continuités et au fond pour dépayser aussi nos certitudes, y compris d'ailleurs sur ce terme de peuple, puisque au fond c'est la controverse essentielle, non, pas seulement sur la France insoumise, c'est-à-dire qu'est-ce que le peuple ? Et là, l'histoire peut être une ressource d'intelligibilité. Ben, tenez, notre grande invitée d'honneur à Nantes à partir du 14 juin, c'est l'immense historienne américaine, canadienne et américaine Natalie Zemon Davis, qui a écrit sur les cultures du peuple. Vous avez peut-être lu Le Retour de Martin Guerre, mais vous avez lu peut-être sur les récits de pardon
au XVIe siècle. Ceux qui ne l'ont pas lu, voilà, il faut rappeler.
Le Retour de Martin Guerre, ça a été porté à l'écran, d'ailleurs, dans les années 80. Et oui.
Qu'est-ce que ça raconte, Le Retour de Martin Guerre?
Ça raconte justement un homme qui revient de la guerre et qui n'est peut-être pas celui qui dit. Et Natalie Zemon Davis est une historienne des récits. Et d'une certaine manière, ce dont on parle depuis le début, c'est de la difficulté de faire récit de nos dispersions, de construire au fond des histoires communes avec nos récits de dispersion. Et c'est pourquoi, au fond, nous pensons non pas qu'il faille réparer les récits, mais qu'il puisse y avoir des fictions réparatrice qui, d'une certaine manière, crée les possibilités d'un échange, d'une relation. Et c'est cela, au fond, que fait Natalie Zemon Davis. Elle a aussi été la biographe de Jean-Léon l'Africain. Elle est une historienne du XVIe et XVIIe.
Qui est Léon l'Africain ?
Alors, c'est un voyageur qui décrit l'Afrique, qui décrit les pays dans lesquels il a voyagé, mais parce qu'il a été aussi captif, réduit en esclavage. Et donc, cette histoire de la mondialisation n'est pas forcément l'histoire de la mondialisation heureuse. Elle travaille actuellement, Natalie Zemon Davis, sur des esclaves, sur des histoires de dispersion, de diaspora au Suriname, dans le Suriname colonial. Donc il ne s'agit pas d'armer une vision heureuse de la mondialisation contre ceux qui, effectivement, résistent de manière opiniâtre à celle-ci. Pas du tout. Il s'agit justement de montrer que, bah oui, c'est beaucoup plus simple, que c'est beaucoup plus compliqué que ça, comme vous le dites. Et pour cela, c'est très simple. On peut aller au jardin. Par exemple, il y avait une grande entreprise historiographique qui avait été menée dans les années 50, à l'initiative d'ailleurs de l'UNESCO, et avec Claude Lévi-Strauss derrière, on est à ce moment de race et histoire, et un grand historien qui est Lucien Febvre, avec François Crouzet, entreprend de faire une histoire non nationaliste de la nation française, qui a été assez récemment, il y a une dizaine d'années, publié de manière posthume, donc sous le titre « Nous sommes de sang mêlé ». Et comment commence ce livre ? Par une visite au jardin. S'adresse directement aux enfants. Et il y aura des ateliers aussi à Nantes. Et il y aura des ateliers dans le jardin botanique. Et Alexandra Cook et Samir Boumedienne nous y mèneront. On voit les plantes. On voit d'où on vient. Et on comprend évidemment que, au fond, pour comprendre qui on est, on ne peut se contenter d'où on est. C'est aussi simple que cela.
Mais alors Patrick Boucheron, qu'est-ce que le peuple pour vous, puisqu'il y a avec les Gilets jaunes depuis des mois en France, des gens qui pensent, qui estiment, qui disent être le peuple, ils ont raison ou ils ont tort ?
Je n'ai aucune autorité pour parler de ces questions, mais en tant que je suis un historien des pouvoirs, je réfléchis à cette question qui consiste à dire qu'est-ce qu'on fait lorsque on se proclame, on proclame agir ou simplement penser au nom du peuple. Donc finalement, moi je suis dans une tradition intellectuelle qui est fondamentalement hostile à l'idée qu'il puisse y avoir des porte-parole et que, en particulier, les intellectuels puissent s'autoriser d'une position pour parler au nom du peuple. C'est d'ailleurs une des émissions, puisque je suis producteur aussi sur France Culture, Matière à penser, ça s'appelait Au nom du peuple et ça avait commencé justement au moment des Gilets jaunes. Et c'est pour cela que il faut pas se laisser coincer par ce débat. Ce que nous allons faire à Nantes, c'est, je l'assume complètement, du théâtre populaire. Sébastien Barrier va nous réunir, va faire une big battle, ça s'appelle comme ça, un jeu télévisé, avec toute l'imagerie d'un jeu télévisé, et on va s'amuser à confronter nos savoirs historiens, et c'est du théâtre populaire. Mohamed El-Khatib, c'est du théâtre populaire. Quand même, où est-ce que vous pouvez voir de manière à la fois plus respectueuse et avec plus de tact une réflexion sur le peuple que dans Stadium, par exemple, son spectacle qu'il a fait avec les supporters de Lens. Nous allons tenter, lui et moi, une performance autour des boules à neige. Vous savez, ces objets qui font partie de la culture populaire. Donc, je ne me laisserai pas déborder sur ce terrain-là. Il n'y a aucune raison de se laisser intimider par celles et ceux qui se disent agir ou même simplement penser au nom du peuple.
Mais est-ce qu'il n'y a pas, Patrick Boucheron, chez les intellectuels, chez les journalistes aussi, hein, je veux bien faire mon autocritique, une facilité de complexifier les choses pour ne pas répondre aux questions qui se posent dans le social, ici et aujourd'hui, lorsque, par exemple, on a la question de la mémoire de l'esclavage, lorsqu'on a la question des luttes sociales avec, aujourd'hui, des gilets jaunes, demain autre chose.
Jean Merner, je suis historien du Moyen-Âge.
Oui.
Ça vous choque ?
Jusque-là, non.
Bon, on peut aussi réfléchir sur des sujets qui ne nous sont pas intimés par l'ordre médiatique.
Bien entendu.
Voilà. Donc j'ai le droit de choisir mes sujets. Je travaille sur l'Italie médiévale.
Vous avez voilà. D'ailleurs absolument tous les droits.
Je fais cours. Non, pas tous les droits. Certainement pas tous les droits.
Sur le plan intellectuel, vous avez une large amplitude de droits.
Non, j'ai une responsabilité. Et j'ai une responsabilité de produire des savoirs nouveaux et de les rendre socialement disponibles. Et au fond, de les rendre aussi, je dirais, disponibles à la critique, dans un espace démocratique. Je fais cours au Collège de France sur l'expérience politique. J'ai travaillé à partir effectivement de cette entreprise, de cette enquête d'archéologie politique sur Ambroise de Milan, sur la manière dont on façonne les identités collectives. Ne croyez-vous pas que ce faisant, je prends mes responsabilités dans le débat public. Simplement, je le fais en choisissant mon angle et en sachant quelque chose qui que justement je reçois et je comprends en lisant pas seulement les poètes et les écrivains, mais d'une certaine manière celles et ceux qui sont dans cette éthique de la relation, que au fond, pour être contemporain, pour être pleinement contemporain, il ne faut pas se laisser aveugler par le présent. Pour être contemporain, il faut comprendre que notre aujourd'hui est tissé, bah oui, de complexité et de temporalité différentes. Je suis moi-même, je travaille en tant qu'historien professionnel sur, je dirais, notre passé le plus ancien, mais dont nous ne sommes pas complètement séparés, qui est le passé médiéval. Et je n'ai pas à m'excuser sans arrêt de ne pas parler des gilets jaunes.
Je ne vous ai pas demandé de justification. Je vais prendre un autre exemple. Chez un historien du Moyen-Âge, Kantorowicz, qui est un grand historien du XXe siècle, sur laquelle d'ailleurs Nathalie Zemon-Davis a travaillé, est un historien qui n'a cessé de travailler sur le Moyen-Âge et qui n'a cessé d'avoir des répercussions pour l'histoire de son temps, depuis Les deux corps du roi, qui est son ouvrage probablement le plus connu, et jusqu'à sa biographie de Frédéric II, qu'affectionnait notamment Hitler. N'y a-t-il pas, là aussi, un écho du Moyen-Âge ? Il est évident que lorsque vous parlez, par exemple, d'Ambroise de Milan, et que vous travaillez, par exemple, sur la manière dont celui-ci a pesé sur la sexualité des êtres humains jusqu'à aujourd'hui, il y a des répercussions évidentes.
Bien sûr.
La notion de peuple, bref, toutes ces notions-là, elles se sont forgées à l'époque du Moyen-Âge, et le regard d'un médiéviste, à cet égard, peut être particulièrement contemporain. De toute façon, vous le savez mieux que moi.
Mais et Kantorowicz le savait et s'en alarmait, puisque en fait, le Frédéric II date de 1927 et effectivement communie dans une mystique de l'État absolu qui ne cessera sa vie durant de regretter et contre lequel il ne cessera d'écrire. Et en particulier, Les deux corps du roi en 1952 est un exercice de désenchantement de la théologie politique. Donc Kantorowicz avait mieux que quiconque, au fond, la responsabilité des médiévistes. Ils s'interrogeaient, ils s'inquiétaient de cet extravagant privilège d'aller chercher dans le passé ce qui pouvait être réactivé nos passions contemporaines. Et c'est pourquoi, au fond, avec ce livre sur Ambroise de Milan, j'ai eu une attitude assez froide, c'est-à-dire que je fais une enquête généalogique sur un problème qui, au fond, ne m'affecte pas, ne me touche pas. Je suis pas milanais, je suis pas catholique ambrosien, donc je dois pas me débattre contre ce sujet. Simplement, je sais que le gouvernement des modernes, dont je tente effectivement d'éclairer la compréhension, le gouvernement des modernes a des origines liturgiques et qu'il ne serait pas sérieux de ne pas y aller voir. Mais, effectivement, comme je le dis, cette manière de faire, qui est une manière posée, sérieuse, calme, au fond déceptive, désenchantée, elle ne peut pas non plus occuper toute ma vie. Et par conséquent, je sais aussi que l'histoire, c'est un récit entraînant. Je sais aussi que l'histoire, c'est une émotion en partage. Et c'est pourquoi j'ai besoin de défendre l'histoire dans toute sa dimension. Dans sa dimension savante, et il y aura des savants à Nantes, je ne les ai pas tous cités, mais il y a beaucoup d'historiennes et d'historiens, mais aussi dans sa dimension joyeuse.
Mais oui, mais c'est pour ça aussi que les journalistes, pas que, mais ici, je veux bien faire office du journaliste qui va vous tirer vers le bas, vous tirer par la manche et vous dire oui, c'est très bien, Ambroise de Milan, mais vous citez, on le disait tout à l'heure, l'un des ouvrages d'Alvax, qui est un grand sociologue qui est mort en camp de concentration, et Alvax avait fait un livre pour montrer en quoi la géographie des lieux saints était une géographie qui s'était construite historiquement. Et tout à l'heure, aux actualités, eh bien, il était question, par exemple, du monastère de Saint-Hilarion, qui est à Gaza, avec tous les problèmes géopolitiques. Les hommes, ils ne veulent pas, finalement, de vos fictions réparatrices. Ils veulent de fictions qui leur permettent de s'affronter, de faire la guerre. Il y a des peuples, il y a des gilets jaunes, il y a des Israéliens et des Palestiniens à Gaza.
Et c'est bien pour cela que, prenant guide, effectivement, Maurice Alvax, dans ce livre, qui est magnifique et déroutant. Ce sont des carnets de déroute. Ce sont c'est un livre, la topographie légendaire des évangiles en Terre Sainte, qui d'une certaine manière est décrit effectivement un voyageur désorienté dans le temps et dans l'espace. Et ça m'a évidemment constamment inspiré dans cette enquête sur Ambroise de Milan, mais qui cherche exactement ce que vous suggérez, c'est-à-dire qui cherche à montrer que le souvenir divise davantage qu'il ne rassemble. J'étais effectivement sur cette question-là, Ambroise de Milan, patron de la cité de Milan, au fond accompagné d'un concept historiographique qu'on appelle la religion civique, qui consiste à dire, les pouvoirs civils organisent le consensus et l'obéissance avec des cultes unanimistes, et j'ai montré au contraire que c'était une mémoire disputée. Donc je le répète, nous ne sommes pas les ravis de la crèche pour parler comme on pourrait parler un jour de Pentecôte. Nous donnons à voir une histoire en mouvement. À Nantes, par exemple, il y aura des ateliers où les spectateurs seront eux-mêmes acteurs de leur propre expérience. Où Pierre Saint-Garavelou et Quentin de Luermoz leur donneront non seulement à jouer, mais à expérimenter ce que peut être une histoire contrefactuelle. Voilà.
Ce qui est à dire. Qu'est-ce que c'est qu'une histoire?
Une histoire contrefactuelle décrit au fond l'histoire, pas simplement par la chronique de ce qui a été, mais par, au fond, les potentialités qu'elles ouvrent dans le devenir. C'est-à-dire, c'est pas seulement « et qu'est-ce qui se serait passé si ?» c'est montrer qu'à tout moment, une autre histoire est possible et que l'histoire comme discipline n'est pas une école de la fatalité, mais au contraire, de l'expérience. Il s'agit d'ouvrir l'expérience, de donner à lire d'autres textes. Voilà. Prenons par exemple la question féminine. Elle va être très présente à Nantes. Deux comédiennes, Marie-Laure Crochant et Mélanie Traversier, vont à trois reprises, au fond, nous faire bénéficier de ce qu'elles appellent des capsules féministes, qui est une sorte de parcours critique dans les écrits féministes, y compris les plus dérangeants. Y compris les plus dissensuels, on va dire, aujourd'hui.
Par exemple
le rapport entre le féminisme et l'écologisme radical, le rapport entre le féminisme et l'islamisme, le rapport entre le féminisme et le communautarisme, entre le féminisme et le trouble dans le genre. Tout cela est posé sur la table. Il ne s'agit pas simplement de communier dans une vision unanimiste et bienveillante et moyenne, au fond, d'une pensée que tout le monde pourrait sans difficulté accepter comme sienne. Non, il y aura des moments provocants. Et je crois que, je dis parfois que les historiennes et les historiens ne font pas grand-chose s'ils ne savent se montrer déplaisants. Et il y a effectivement dans notre manière de faire des choses qui, j'en suis tout à fait conscient et même je l'assume, peut vous déplaire ou d'autres déplaire différemment, mais c'est ainsi. Nous ne sommes plus les instituteurs du social. Nous ne sommes plus là pour effectivement conforter les certitudes. Plus personne ou presque plus personne demande ça.
La question, ça n'est pas tant de déplaire que, à partir du moment où on a abandonné l'idée d'une histoire positiviste, et c'est bien évidemment...
Qui a abandonné une histoire positiviste?
Je pensais que depuis Brodel, elle était largement abandonnée.
Non, parce qu'on travaille toujours.
D'abandonner, pour expliquer aux auditeurs une histoire positiviste, une histoire à base de faits, vous savez bien aujourd'hui qu'il n'y a pas de faits, qu'il n'y a que des interprétations, des manières de construire ces faits et...
Non, je suis pas d'accord avec ça, Guillaume Herlaire.
Expliquez-moi.
Je suis pas d'accord avec ça. D'abord, ça n'existe pas, le positivisme. Il y a une école qui s'appelait l'école méthodique, qui a été fondée en même temps que la professionnalisation de la discipline et qui a des règles que nous appliquons toujours. On en a finalement... Depuis Brodel, je veux bien m'accorder avec vous sur ce point.
Le fondateur de l'histoire des annales.
On en a rajouté une. C'est l'autoréflexivité. C'est l'idée que l'histoire se dit d'un point de vue qui doit être explicité, que nous devons dire d'où on parle, parce que c'est la question de la neutralité qui est une question compliquée et débattue aujourd'hui. Il n'est pas fatal que l'historien soit condamné à être neutre, mais il est indispensable qu'il soit probe, qu'il soit honnête, qu'il dise sans feinte, d'où il parle, comme on disait avant. Mais ça ne veut pas dire que toutes les interprétations se valent. Ça ne veut pas dire que le fait historique se dissolve dans une grande nappe de langage. Pas du tout.
Non, mais par exemple, si je devais présenter le travail de Patrick Boucheron à quelqu'un qui ne le connaîtrait pas, je dirais que cet historien travaille non pas sur la biographie d'Ambroise de Milan, ce qu'aurait fait un historien positiviste, mais sur la manière dont la mémoire d'Ambroise de Milan s'est construite ensuite.
Oui, mais c'est tout aussi positif. C'est tout aussi positif, puisque ce sur quoi je travaille, c'est sur le fait que précisément on ne manipule pas passé de manière incontrôlable. C'est-à-dire que c'est pas simplement une vie des Ambroise imaginaires, c'est ce qui empêche d'imaginer un Ambroise trop loin du passé tel qu'il fut. Voilà. Ce qui retient le souvenir.
Mais vous voyez bien la différence. Ce qui pose problème aux hommes, je ne parle pas des historiens, et ils ont tout à fait le droit de faire leur travail, les historiens, mais il y a des hommes aussi. Ça n'est pas tant Ambroise de Milan ou Robespierre, c'est la mémoire de Robespierre et la mémoire d'Ambroise de Milan. Et c'est là-dessus où il va y avoir des controverses et où le positivisme que vous pouvez réclamer de vos souhaits, vous aurez énormément de mal à le faire advenir, y compris sur des périodes beaucoup plus récentes, puisque Ambroise de Milan, c'est le 4e siècle, Robespierre nous est plus récent, mais il y a autant de problèmes.
Mais il y a des problèmes, disons qu'il y a du travail.
Des problèmes d'interprétation.
Du travail. Bah, du travail, c'est du travail. C'est-à-dire que, au fond, c'est quelque chose que je peine, j'avoue, je peine à comprendre. C'est pourquoi cela inquiète tant certaines personnes, pas toutes, qu'il y ait un conflit d'interprétation. La plupart des gens qui vont vers l'histoire, qui vont dans des festivals d'histoire, qui achètent des livres d'histoire, sont passionnés par le fait que justement l'histoire continue. Donc, c'est cela. Si nous avons des étudiants, à l'université, c'est parce qu'ils ont compris que l'histoire ne se récitait pas, qu'elle s'écrivait. Et donc, elle s'écrivait, évidemment, avec, contre, tout contre, parfois en opposition avec ce qui avait été écrit avant. Que, évidemment, il s'agissait de comprendre toute la tradition, qu'il y a une beauté incroyable à avoir des maîtres. Et moi, je sais que, évidemment, je le défends toujours avec acharnement. À Nantes, on va faire aussi des exercices d'admiration. Mais il n'en demeure pas moins que l'histoire continue. L'histoire continue et au fond, c'est ça qui la rend intéressante.
L'idée, ça n'est pas tant d'avoir peur des conflits d'interprétation, c'est de voir que la plupart des guerres, la plupart de finalement ce qui fait traumatisme dans l'histoire est lié à ces conflits d'interprétation. On a parlé tout à l'heure de la Moldavie et on aurait pu parler de la guerre de Yougoslavie. Bref, à chaque fois qu'il y a une question qui provoque une guerre entre les hommes, c'est à cause de vous, les historiens, parce que précisément il y a des conflits d'interprétation.
C'est à cause de nous, les historiens, oui et non quand même. Disons que, de toute façon, de quoi on parle ? Si on parle du fait que l'histoire s'est démocratisée, que l'histoire s'est politisée, que l'histoire ne se laisse plus réduire dans un récit unique contrôlé par l'État, bah oui. Et quand ça se passe différemment, comme en Pologne ou comme en Hongrie aujourd'hui, où toutes les académies savantes sont supprimées pour un seul comité directement nommé par Viktor Orban et qui s'appelle Veritas, alors là, on est dans une histoire idéale pour ceux qui veulent voir qu'une seule ligne. Bah, est-ce que vous voulez ça ? Non. Donc, de toute façon, on n'y reviendra pas. Ou quand on y revient, c'est catastrophique. Donc, je le répète, il faut faire récit de nos dispersions. On peut, malgré tout, faire commun, trouver des espaces communs dans une discussion. C'est le béaba de notre métier. Nous, on fait ça tout le temps, avec des lecteurs, avec des spectateurs, avec justement un public de théâtre, et puis avec des étudiants.
Et alors, précisément, lorsqu'on s'éloigne des étudiants pour revenir aux enfants, puisque c'est à eux aussi qu'on apprend l'histoire, lorsqu'on voit, par exemple, le chemin parcouru par rapport à l'histoire de la vis, aujourd'hui, n'importe quel écolier soumis à l'histoire de la vis trouverait ça naïf, candide, aurait du mal à l'apprendre. Qu'est-ce que vous préconisez, Patrick Boucheron, dans la manière dont on peut, dont on devrait enseigner l'histoire aux enfants?
Je préconise rien. Je vois que collègues font ce qu'ils peuvent. Ils bricolent. Ils ont souvent de bonnes idées. La première chose à faire, c'est de regarder ce qui marche, toutes ces expériences. Il y a une fabrique scolaire du savoir historique, et c'est à partir de là, toujours à partir de là, et pas à partir de ces préjugés ou de ces souvenirs vagues d'un temps qui existait à peine, que l'on doit effectivement se réfléchir. Mais enfin, l'histoire est une science. C'est une science humaine. Donc chacun comprend, effectivement, vous ne voudriez pas vous faire soigner par un médecin qui adopterait des méthodes contemporaines de celles de Lavis. Moi, je ne veux pas qu'on récite Lavis à l'école aujourd'hui.
Mais alors, justement, parce que je songeais à une leçon que Brodel avait fait devant, je crois, des collégiens ou des lycéens.
À Château-Vallon ?
Oui, vous récemment, dans le film de Bertrand Bonello, vous êtes professeur d'histoire dans une classe de terminale, oui. Et vous leur parlez de Michelet et du peuple. Vous leur parlez de cela d'ailleurs avec, évidemment, une hauteur de vue qui peut-être m'aurait profondément désarçonné en terminale, même si je n'ai pas vraiment de souvenir du cours que j'avais eu à ce sujet. Est-ce que c'est vraiment la manière dont vous enseigneriez l'histoire à ces lycéens de terminale?
Bertrand Bonello n'est pas à proprement parler un cinéaste réaliste. Donc il m'a demandé de participer, et j'aime beaucoup ses films. Justement à son dernier film, Zombie Child, et il m'a dit je veux que la première scène soit un vrai cours d'histoire, et peu importe celle qu'il entend, dans l'occurrence celle, puisque ce sont les pensionnaires de la Légion d'honneur. Donc j'ai fait un cours d'histoire sur l'émancipation. Je sais pas au fond à qui il s'adresse. Vous savez, il y a un moment où c'est Marc Bloch, justement, à moi aussi de vous proposer une citation, qui disait qu'il fallait parler du même ton aux doctes et aux écoliers. Je suis pas sûr qu'on puisse leur parler du même ton, mais on peut leur parler avec la même exigence. Et moi, il y a des choses que j'ai l'impression de dire qui parfois peuvent être comprises par tout le monde. Lorsque je dis avec Anna Arendt que l'histoire est l'art de se souvenir de ce dont on est capable, je ne vois pas qui, à partir de 10-11 ans, ne peut pas comprendre ça. Ne peut pas comprendre que, effectivement, si on est seul, on est démuni, on est fragile, on est vulnérable, si on n'a que notre seule expérience, si on ne sait pas, si on n'a pas lu des romans avant de tomber amoureux, eh bien, on va tomber dans le panneau. Et la meilleure manière de vivre d'autres vies que la sienne, c'est effectivement d'élargir notre expérience et de comprendre qu'on peut plus. On peut plus. Voilà. Contre toutes les idéologies de la déploration, je dis que l'histoire est une philosophie pratique de l'agir humain, qu'elle nous enseigne qu'on peut toujours davantage qu'on croit, et que dans des situations en commun, eh bien, on se découvre plus imaginatif, plus libre et plus courageux qu'on le savait.
J'en profite pour dire que le film de Bertrand Bonello sera diffusé en avant-première demain au Majestic Bastille à 20h, et avec ensuite une interview de Bonello par notre camarade Antoine Guillot. Ça veut dire en conclusion, Patrick Boucheron, avec ce festival à Nantes, mais aussi avec le reste de votre pratique d'historien, que vous voudriez enseigner aux hommes que les conflits d'interprétation, ça n'est pas grave.
C'est pas grave, ça c'est quelque chose qu'on peut dire à 8 ans. Oui, c'est pas grave, j'entends ça tout le temps de mes filles. Non, c'est pas grave. C'est la vie, plus exactement, c'est la vie. Voilà, si, c'est grave la vie, mais on n'a rien d'autre. On n'a rien d'autre que ça. On n'a pas d'autre monde, on n'a pas d'autre terre, On n'a pas d'autre histoire que la nôtre. Donc on doit faire avec.